Les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. À la une ce matin, un procès filmé pour l'histoire, celui des attentats de janvier 2015. 14 personnes comparaissent dès ce matin à Paris, soupçonnées d'avoir aidé les terroristes qui ont décimé la rédaction de Charlie Hebdo, abattu un policier à terre dans leur fuite, puis une policière à Montrouge avant de prendre en otage les clients et le personnel de l'hypercachère Porte de Vincennes à Paris.
Michel Catalano fait partie des 200 parties civiles constituées pour ce procès, c'est dans son imprimerie. À Dammartin au Goël, que les forces de l'ordre ont donné l'assaut final contre les frères Kouachi, entre angoisse persistante et besoin de comprendre, il a confié ses attentes à Florence Tourme.
Le terrorisme qui fait également la une aux États-Unis, mais avec une toute autre résonance. Donald Trump assimile à du terrorisme intérieur les manifestations violentes qui ont secoué Kenosha dans le Wisconsin après une apparente bavure policière. Amnesty International accuse l'Iran de torture après les manifestations de l'an dernier contre la vie chère et la classe politique.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, on va s'interroger sur cette amende pour usage de drogue. S'agit-il d'un durcissement ou d'un assouplissement de la législation? Je poserai la question à Renaud Colson. Il est maître de conférences en droit à l'Université de Nantes.
Les trois terroristes, les frères Kouachi et Amedi Coulibaly, sont morts, tués par les forces de l'ordre après avoir abattu 17 personnes à Charlie Hebdo à Montrouge et dans le magasin Hypercachère entre le 7 et le 9 janvier 2015. Mais ce sont 14 accusés qui seront jugés dès ce matin et pendant deux mois pour leur implication à des degrés divers dans les attentats de janvier 2015, Florence Turme.
14 accusés, dont 3 en fuite, les frères Belloucine et Ayad Boumediene, la compagne d'Amedi Coulibaly, partie en Syrie quelques jours avant les attentats. C'est le tueur de l'hypercachère lui-même qui les conduit à l'aéroport de Madrid, d'où ils embarquent pour la Turquie. Mohamed Belloucine, considéré comme le mentor de Coulibaly et l'auteur du serment d'allégeance prêté au groupe État islamique, serait mort lors de combats comme son frère, mais sans certitude absolue. Ayad Boumediene, poursuivi pour association de malfaiteurs et financement du terrorisme, aurait été vu dans le camp d'Al-Hol en octobre dernier. Le couple avait monté plusieurs escroqueries qui lui permettaient de récupérer de l'argent en revendant des voitures achetées grâce à des emprunts souscrits sous de fausses identités. Dans le box des accusés, la plus lourde charge, complicité de crimes terroristes, pèse sur Ali Riza Polat, un franco-turc de 35 ans que l'on retrouve, selon l'accusation, à tous les stades de la préparation des attentats. C'est lui qui aurait fourni l'arsenal utilisé à l'hypercachère et à Montrouge, mais aussi à Charlie Hebdo par les frères Kouachi. Un lien de plus entre les trois terroristes qui ont évolué dans la même sphère djihadiste, même si les uns ont revendiqué leurs crimes au nom d'Al-Qaïda au Yémen, l'autre au nom du groupe État islamique. Les autres accusés évoluent tous dans le milieu de la délinquance, voire de la criminalité organisée. On retrouve l'ADN de certains sur des armes, un taser et dans la voiture utilisée par le tueur de l'hypercachère. Autant d'éléments sur lesquels ils vont devoir s'expliquer, mais ils soutiennent qu'ils ne connaissaient pas les intentions terroristes des trois hommes qu'ils ont aidés.
Florence Turme, vous allez suivre pendant deux mois pour France Culture ce procès filmé pour l'histoire. C'est un article d'ailleurs à retrouver sur franceculture.fr. Et avant l'ouverture de ce procès devant la cour d'assises spéciale qui siégera exceptionnellement dans le nouveau palais de justice de Paris, vous avez aussi rencontré Florence Michel Catalano qui sera donc sur les bancs des parties civiles. Ce chef d'entreprise de Dammartin-en-Goël en Seine-Maritime a été l'otage des frères Kouachi pendant deux heures. C'est dans son imprimerie que les forces de l'ordre donneront l'assaut final de ce procès. Il attend surtout des réponses. Comment les terroristes sont-ils arrivés jusque chez moi? Comment ont-ils pu passer les barrages, obtenir des armes? Michel Catalano veut comprendre. Il souhaite aussi que la parole soit donnée aux victimes, qu'elles puissent enfin raconter ce qu'elles ont pu vivre. Florence Turme.
Durant les deux longues heures qu'a duré la prise d'otage, Michel Catalano n'a eu qu'une obsession. Faire en sorte que les frères Kouachi ne découvrent pas la présence de son jeune employé, Lilian, à qui il avait enjoint de se cacher à l'arrivée des terroristes.
À partir de ce moment-là, je me suis dirigé vers eux pour les ralentir. Et je pensais que d'ailleurs, ma vie s'arrêtait juste à ce moment-là. Et je suis resté seul avec eux pendant tout ce temps. Sur le moment, par contre, moi j'étais vraiment dans l'action et j'agissais comme quelqu'un qui veut éviter un accident et qui évite l'accident. Mais une fois qu'on s'arrête, un peu plus loin, et ben on a la jambe qui tremble et tout qui revient. C'est ce qui s'est passé après, c'est que je me suis aperçu que ces moments-là sont des moments qui resteront à vie parce qu'ils revenaient dans mes cauchemars comme une situation définitive.
Des heures d'angoisse que son épouse Véronique a vécues, elle aussi, à distance.
C'est un cauchemar éveillé. Ces heures d'attente, on ne sait pas si la personne qu'on aime le plus au monde va sortir vivant. J'ai fait des milliers de pas, je suis pas croyante, mais j'ai prié toute cette journée.
Aujourd'hui encore, Michel Catalano garde en mémoire le pas lourd qui monte l'escalier, le bruit de la Kalachnikov qui heurte les marches, l'injonction faite par les Kouachi d'appeler la gendarmerie pour en finir, la question de savoir s'il est juif, le moment où il soigne l'un des terroristes blessé au cou, puis les autres heures d'attente avant que Lilian Lepère ne sorte à son tour vivant. Pour autant, il ne se considère pas comme un héros, préfère rappeler qu'il est chef d'entreprise, papa et entraîneur sportif. Il continue d'ailleurs à se battre pour son imprimerie.
L'année 2020 commençait bien. Et aujourd'hui, comme toutes les entreprises, j'ai perdu 70% de mon chiffre d'affaires. Mais voilà, la différence, c'est qu'on a connu tellement pire que on se dit, bon, on va serrer, on lâche rien, on continue à se battre et on va y arriver, en fait. En tout cas, j'y crois encore.
Souvent, on me dit que mon mari est un homme bien. J'ai dit, moi, je le savais depuis toujours. Il a toujours eu des valeurs, une parole, un respect des personnes. Il l'a prouvé ce jour-là et je suis très fière de lui.
Un portrait signé Florence Turm. Comment se construit la mémoire des attentats? C'est encore la question que posera Emmanuel Laurentin à ses invités, neuropsychologue et historien, à partir de 18h20 ce soir, dans le temps du débat sur France Culture. Et avant l'ouverture du procès des attentats de janvier 2015, tout ça pour ça, titre ce matin Charlie Hebdo, qui republie les caricatures de Mahomet, celles déjà publiées en 2006. Nous ne nous coucherons jamais, nous ne renoncerons jamais, écrit Rice dans son édito ce matin. Un droit au blasphème que défend aussi Emmanuel Macron, le chef de l'État, s'exprimait hier depuis Beyrouth.
En France, on peut critiquer des gouvernants, un président, blasphémer, etc. Il y a, parce que souvent, ce droit de critiquer ou de blasphémer, il implique en revers une décence commune, une civilité, un respect. Parce qu'il y a en France toutes ces libertés. La liberté de conscience, la liberté d'expression, la liberté des journalistes de faire ses choix, une liberté de blasphème, il y a le devoir de ne pas avoir de discours de haine et de respecter. Tout ça impose aux citoyens que nous sommes le respect et donc de ne jamais sombrer dans les discours de haine. Je le dis parce que c'est peut-être quelque chose qui nous manque dans le débat commun, qui n'a rien à voir avec la une de Charlie, parce que la caricature n'est pas un discours de haine, mais qui parfois, dans les discours des réseaux sociaux, dans ce à quoi nous nous habituons, est quelque chose qui peut menacer cette liberté et dont il est mon devoir de le rappeler.
Emmanuel Macron qui s'exprimait hier depuis Beyrouth, propos recueillis par Christian Chesneau, alors que Charlie Hebdo met donc à nouveau en une les caricatures de Mahomet. Cet acte est qualifié de courageux par l'ancien directeur de la publication Philippe Val et par la journaliste Caroline Fourest, et c'est un article à retrouver en une sur franceculture.fr. À noter encore à l'heure de l'ouverture donc du procès des attentats de janvier 2015, François Bouc, ami de Cabu, a accepté la demande de Charlie Hebdo de couvrir ce procès en mémoire des liens profonds qui le liaient aux caricaturistes. François Bouc dit savoir que le procès sera douloureux, bouleversant, dit-il, d'être face aux accusés. Autre difficulté pour lui, du point de vue technique cette fois, les masques qui vont cacher les visages, les expressions dans la salle d'audience, des expressions que le dessinateur cherche à capter.
7h08 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Catherine Dutu. Aux États-Unis, la visite controversée hier soir de Donald Trump à Kenosha dans le Wisconsin. Le président américain parle de terrorisme intérieur.
En déplacement dans cette ville où il y a 10 jours, Jacob Blake, un noir américain de 29 ans, a été grièvement blessé par un policier qui lui a tiré 7 balles dans le dos. S'en sont suivis plusieurs jours de manifestations et d'émeutes, ponctuées par la mort de 2 manifestants tués par balles. Hier, Donald Trump s'est donc rendu sur place pour constater les dégâts et apporter son soutien aux forces de l'ordre. Et en parlant des émeutiers de Kenosha, mais aussi de ceux de Portland le week-end dernier, Donald Trump a utilisé le qualificatif de terroriste.
Ce ne sont pas des manifestations pacifiques, c'est du terrorisme domestique. Mon administration a coordonné sa réponse avec l'État du Wisconsin et les autorités locales pour déployer les réservistes de la garde nationale à Kenosha et stopper les violences. Et je soutiens très fortement l'idée que la garde nationale intervienne dans d'autres villes. Si on avait fait cela à Portland, les manifestations se seraient arrêtées très rapidement. Tout serait déjà terminé.
Donald Trump, traduit par notre correspondant aux États-Unis, Grégory Phillips. La Maison-Blanche, qui a par ailleurs vivement critiqué hier la mairie de Washington après qu'une commission a recommandé de rebaptiser des écoles, des parcs et des monuments de la ville pour qu'ils ne portent plus le nom de personnes liées notamment à l'esclavage. Et puis, une manifestation a eu lieu hier soir à Los Angeles pour réclamer des réponses après la mort d'un homme noir tué lundi par la police qui affirme qu'il était armé d'un pistolet. Tout cela dans un climat de tension relancée donc par l'affaire Jacob Blake dans le Wisconsin. Direction l'Iran. À présent, on se souvient de ces manifestations en novembre dernier suite à la hausse du prix de l'essence. Une vague de contestation avait touché une centaine de villes avant d'être sévèrement réprimée par les forces de l'ordre. 300 personnes au moins avaient été tuées. Amnesty International publie aujourd'hui un rapport accablant à partir d'une soixantaine de témoignages. Un rapport qui décrit la répression qui a touché plus de 7000 hommes, femmes et enfants arrêtés pendant ces manifestations et qui ont subi de mauvais traitements. Les précisions de Valérie Crova.
Utilisation systématique de la torture, simulacre d'exécution, traitement dégradant, privation de soins, de nourriture, aveux extorqués. La liste des violations des droits de l'homme est longue. Les forces de sécurité iraniennes sont allées jusqu'à effectuer des descentes dans des hôpitaux pour arrêter des manifestants blessés. Pour celles et ceux qui ont été jugés, les procès ont été expéditifs et se sont déroulés à huis clos. Les peines prononcées variaient d'un mois à 10 ans de prison pour différents motifs, troubles à l'ordre public, diffusion de propagande contre le régime, outrage au guide suprême et même inimitié à l'égard de Dieu. Amnesty en appelle au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. L'organisation soutient l'ouverture d'une enquête pour que ceux qui ont commis ces violations des droits humains rendent des comptes. Amnesty demande aussi aux autorités iraniennes de libérer toutes les personnes maintenues en détention uniquement pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression.
Son nom fait immédiatement penser à la torture, mais cette fois au Cambodge. Douche, le chef du plus redoutable centre de détention sous le régime des Khmers Rouges, est mort hier à l'âge de 77 ans. Il avait été condamné à la perpétuité. À suivre dans le journal de 7h30, une justice plus rapide, des sanctions plus claires et des poursuites systématiques. Ce sont les attentes des 35 000 maires de France, cibles d'incivilité et d'agression en tout genre. Depuis le début de l'année, 233 élus ont été pris à partie, verbalement ou physiquement. Pressé de freiner ces attaques, le Premier ministre Jean Castex organise une réunion ce matin à Matignon avec les ministres de l'Intérieur et de la Justice. On y reviendra donc dans le journal de 7h30. Le temps de ce mercredi 2 septembre changeant avec des nuages qui vont laisser peu à peu la place au soleil sur une grande partie de l'Hexagone. Mais les nuages vont s'accrocher sur les reliefs de l'Est avec quelques averses. Au meilleur de la journée, il fera entre 20 et 27 degrés du nord au sud, Guillaume Erner.
Merci Catherine Dutu.